lacrymogènes. Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Et bonsoir, amis auditeurs, amis auditrices. Et tu te dis, on est jeudi, il est 19h02. C'est pas la voix de Laurent, c'est pas la voix de Delphine. Mais si, je te rassure, t'es bien sur Canu. Et tu écoutes bien le Canu Info qui débute ce soir avec Delphine qui arrive.
Oh yeah, Delphine, elle essaye de fermer des portes avec des clés qui marchent, d'en ouvrir d'autres, c'est vrai qu'ils marchent non plus. Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau Canu Info. Nous sommes le jeudi 20 septembre 2018 peut-être, avais-tu déjà signalé cette date?
Absolument pas.
Absolument pas, donc bonsoir à toi Jean-Yves, merci bonsoir. D'être là pour remplacer notre cher et tendre ami Laurent, qui est au travail. Et oui, on vous rappelle qu'à Radio Canu, on vous le dit parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, nous sommes tous et toutes bénévoles ici, nous n'exploitons personne avec des contrats et des précaires ou des CDD juste pour quelques instants, et non, nous donnons tous dans notre temps, ce qui fait que quand des fois on a un travail, ce qui est le cas de Laurent actuellement, et ben des fois on ne peut pas être là à la radio. Alors ce soir on va vous parler avec Jean-Yves de tout plein de choses, mais je ne suis pas sûre de vouloir vous faire la liste. D'abord, on aurait peut-être pu vous dire qu'on a hésité à ouvrir avec deux sujets. La peine de mort et les migrants.
C'est ça.
C'est un peu l'idée. Alors, on va ouvrir quand même avec les migrants. Alors, comme on dit dans les séries aujourd'hui, je vais vous spoiler tout de suite la fin. Nous n'avons pas de réponse au débat que nous allons lancer en quelques instants. Vous savez donc, si vous suivez un petit peu l'actualité lyonnaise, que des gens se sont retrouvés à la rue, virés d'immeubles, expulsés par deux fois, puis installés... avait trouvé refuge, ça aussi ça m'agresse de dire ce mot-là, place Satonnet, donc sur le premier arrondissement de Lyon, que donc ces familles ont été expulsées de la place Satonnet, non mais on tourne en rond, et ont trouvé un nouveau refuge, hein, là aussi ça m'agresse la bouche d'employés vocabulaire, et donc sont en partie installés place Colbert, c'est-à-dire en haut des pentes de la Croix-Rousse, donc on est toujours dans le quartier de la radio, c'est aussi pour ça que j'en parle. Donc sur ce quartier, il y a aussi des jeunes hommes, certains sont mineurs, qui viennent d'Afrique, qui sont installés de jardin de la Grande Côte. Hein. Donc on a un petit quartier qui aujourd'hui tente au mieux de s'organiser, parce qu'il faut le dire qu'il y a quand même une belle solidarité des habitants, des gens qui travaillent dans le quartier, pour essayer d'amener des vêtements, de trouver un petit peu du soutien aussi, hein, moral, expliquer, trouver aussi des droits. Il y a des associations qui sont aussi intervenues pour essayer de se battre contre les collectivités territoriales, contre l'État, de faire en sorte que l'État applique la loi, c'est-à-dire s'occupe des mineurs qui sont à la rue, parce que quand vous avez des gamins de 14-15 ans qui traînassent, c'est pas terrible. Voilà. Mais aujourd'hui, on a aussi de jeunes adultes, parce que franchement, hein, on a eu ce débat avec Jean-Yves aussi, entre 17 et 19 ans, Il y a d'un côté la loi peut peut-être faire quelque chose pour vous, de l'autre côté elle fera rien. En tout cas, l'État français s'en moque. Bon, on a quand même des jeunes garçons qui s'ennuient, il faut bien le dire, qui n'ont aujourd'hui pas de papier, pas le droit de travailler. Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, on sent que dans les associations, qu'elles soient humanitaires, politiques, militantes, syndicales, personne n'a de solution pour que ça s'arrête d'avoir des gens à la rue, des gens qui soient malmenés par l'État français, par les collectivités territoriales. Et je crois que c'est à nous déprime en fait, tous et toutes. Enfin moi ça me déprime, c'est pour ça que j'ouvre un petit peu sur cette situation. C'est qu'il y a quelques années en arrière, alors pour tout vous dire, j'ai eu ce débat-là à la terrasse d'un bistrot. Alors, dans un bistrot très protégé, parce que c'est dans le quartier de la radio, dans un endroit où je sais qu'on ne va pas avoir du facho tout de suite là en face de moi, même si des fois les gens ont des réactions un peu, évidemment, dépassées, surprenantes. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a juste débat, je m'étais dit, et en fait, militant, pas militant, tout le monde a un truc à dire. Et en même temps, on est tous coincés, on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'entre des associations qui ont envie de parler à la préfecture, des collectifs qui n'ont pas envie d'aller parler à la préfecture, un collectif qui, en soi, lyonnais, n'arrive plus trop à fonctionner, parce que, bah, déjà, alors, vous allez me dire, il y a toujours des bisbilles, mais c'est en même temps, personne n'a de solution. Donc, du coup, bah, c'est morose. On va aller faire quoi ? Encore une manifestation à 1000, 2000 ? Oh, 2000, c'était génial. Bon, sauf que c'est 2000, hein, c'est-à-dire que quand même, toute la métropole lyonnaise s'en fiche. Et on marche un peu pour rien. Alors bon, évidemment, chaque situation là, moi j'avais fait une remarque il n'y a pas très longtemps à des camarades en leur disant mais de toute façon j'attends à ce qu'on ait de retour une occupation d'école dans le quartier de Radio Canu, et pif paf, j'ai reçu un mail tout à l'heure m'informant donc qu'il y a une occupation à Michel Servet, qui est donc dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. C'est-à-dire que tous les ans on a des familles, des instituteurs, institutrices qui se mobilisent pour héberger les familles dont les enfants sont scolarisés et que ces familles sont à la rue. Et en fait, hiver après hiver, on va se retrouver avec les mêmes problématiques, et on... Voilà, et je sais pas. Vous qui êtes militants et militantes, vous êtes certainement blasés, parce que vous ne savez plus comment passer votre énergie, vous êtes certainement très en colère, en tout cas, moi c'est mon cas, je crois aussi que ça... quand même ça remonte, parce qu'on a quand même des êtres humains en face de nous, et puis, pas quoi, on va aller apporter un pantalon, une jupe, du thé chaud, donc c'est bien.
Mais... Si vous pouvez le faire, faites-le déjà. Ben ouais. Mais effectivement, après, c'est la difficulté de choses sur le long terme, en fait, et de projection, mais même militante, etc., sur le long terme, en fait.
Alors, c'est ça, parce que, alors, évidemment, on peut toujours dire. Alors, la CGT fait ses permanences pour l'accueil des sans-papiers, c'est vachement bien. D'autres syndicats pourraient aussi suivre le mouvement.
D'autres collectifs aussi, forces. Je crois.
D'autres collectifs.
À la GUI qui font aussi.
Médecins du Monde est toujours très, très, très présent aussi dans des lieux de rendez-vous pour accueillir les personnes qui auraient besoin de soins, d'accompagnement. Mais. Tout ça reste quand même une solution d'urgence. Et au fond, comment on attaque les politiques aujourd'hui ? La République française est un lieu pas accueillant, il faut le dire. Et comment on fait pour que les choses changent ? Alors la problématique, c'est qu'effectivement, il y a des lieux comme l'Amphizède aujourd'hui qui arrivent un petit peu à y vivre. Mais c'est surtout intéressant parce qu'on a des gens sans papier qui peuvent... se prendre en main, mais parce qu'il y a un lieu qui fixe. Rappelons aussi qu'il y a des situations différentes. Vous pouvez être ici pour des raisons économiques. Donc quand vous êtes moldave, autant dire que la République française, elle ne fera rien pour vous. Elle ne veut pas de vous. Vous pouvez être là en demande d'asile, parce que vous venez d'un pays en guerre. Alors vous pouvez être là aussi parce que vous êtes réprimé dans votre pays. Soit la République française considère que vous êtes réprimé, soit elle va vous dire, oh bon non, en fait, être homosexuel dans un pays où on vous tue, c'est pas bien grave. Donc en fait, on a aussi des gens qui viennent de partout dans le monde, qui sont dans des situations... administratives différentes, des situations humaines bien évidemment différentes, mais surtout administratives. Et on bloque, parce qu'on n'est quand même pas non plus si nombreux et nombreuses à être impliquées dans l'après humanitaire, et que on se sent un peu les bras ballants, il faut bien le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu une exaspération. Il y a des gens qui sont quand même à côté des sans-papiers depuis 20 ans, qui n'ont jamais rechigné à accompagner les gens qui demandaient de l'aide pour faire un dossier syndical, un dossier administratif, aller à la préf, un accompagnement, scolariser des gosses. Mais aujourd'hui, on est quand même face à un État répressif, fascisant sur ces questions, qui a décidé de mettre tout le monde dans le même sac. Et nous, on veut bien mettre tout le monde dans le même sac, parce que ici, dans cette émission, on estime que tout le monde a le droit de rester en France.
C'est ça, aucun humain n'est illégal, en fait.
Alors qu'on sait qu'il y a des associations et des organisations qui sectorisent, mais aussi il y a une situation d'urgence. Il y a aussi, il y en a cette bonne foi, c'est parce que tu sais que le dossier il va passer et que du coup tu vas te concentrer sur les dossiers qui vont passer. Il faut aussi voir la réalité du problème. Il y a aussi des gens qui pactisent avec les préfectures, qui acceptent de faire telle ou telle chose. Donc il y a aussi du marché derrière, il y a une économie, du réfugié, du migrant, du sans-papier. Il y a aussi des gens qui font du pognon sur cette question-là. Donc voilà, mais si vous avez des solutions politiques à la chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour pas marcher vienne à Godas à faire le tour entre Hôtel de Ville et Bellecour tous les deux mois pour rien, pour rien.
Ça donne au moins un petit peu de visibilité, tu me diras.
Ouais, super, maintenant on nous fait passer dans des endroits où personne ne nous voit, comme ça c'est super. Comment on fait pour réquisitionner des lieux sans se faire virer, enfin en tout cas que les gens se fassent virer dans la minute? Parce qu'auto-gérer la lutte, ça sera possible quand on pourra aussi stabiliser les situations, parce que quand vous êtes à la rue, pas auto-gérer votre lutte, excusez-moi, mais c'est pas simple. Quand vous dormez dans une tente Décathlon, pour citer une marque très commune dans la rue, mince. Donc voilà, si vous avez des idées, nous on a un blog sur lequel nous du jeudi. N'hésitez pas, nous on est assez preneurs, j'avoue. Mais je pense qu'on est plein à Lyon à être preneurs de cette situation, de savoir comment on fait et comment on avance pour mettre à l'abri des gens.
Ouais. Et peut-être en dehors de l'urgence, si vous avez encore un peu de place dans la tête, essayer de se projeter sur le long terme. Quelles sont les raisons de toutes ces merdes? Et je pense, en tout cas c'est un avis très personnel, qu'il faudrait s'attaquer à toutes ces questions de frontières. Et c'est pas parce qu'elles sont de gauche qu'elles sont meilleures. Les frontières, c'est l'exclusion. Donc de toute façon, je crois que tant qu'on n'arrivera pas à intégrer ce genre de données-là, je pense qu'on sera toujours dans ses limites, en fait. De sectorisation, en fait. C'est-à-dire que des fois, on va penser que les frontières sont justes. Non, les frontières ne sont pas justes, elles ne le sont jamais, elles n'ont jamais été, elles ne le seront jamais.
Alors, ce que, en fait, Jean-Yves essaye de vous expliquer, l'air de rien, c'est qu'il va falloir devenir anarchiste. C'est-à-dire que tant que vous allez continuer à aller voter pour des gens, parce qu'il faut voter contre Marine Le Pen, et donc aller voter M. Macron, où on nous a fait le coup avant, vous votez quand même pour des... Excusez-moi, un jour en dedans, si c'est votre cas, mais vous participez quand même à ça, alors qu'à d'un autre côté, ça, vous allez aider les gens qui sont à la rue par des actes humains et solidaires, et en même temps pour avoir la bonne conscience de ne pas mettre l'extrême droite à la tête de l'État français, vous allez voter pour des gens qui ont aujourd'hui des pratiques fascisantes avec les gens qu'on est censé accueillir, hein, parce qu'il paraît que la France c'est une terre d'accueil.
C'est ça, parce que, enfin, pardon, on va pas faire trop long, mais je veux dire, les réactions et les attitudes du gouvernement français en refusant d'accueillir les bateaux, etc., etc., c'est très parlant. Alors bien évidemment, on se dira oui, mais c'est pas pareil que Orban. Bon, s'il faut attendre que toute l'Europe soit comme Orban, effectivement, peut-être que là, on se dira peut-être « Oh bah tiens, l'Europe est fasciste ».
Alors, il y a des actions qui se montrent, par exemple. Alors, c'est pas lié à la situation des migrants, mais par exemple, le DAL 38 a fait un communiqué pour expliquer qu'ils avaient participé à l'occupation de la permanence parlementaire des députés En Marche. Monsieur Olivier Véran et madame Émilie Chalas, c'est à Grenoble, hein, en Isère, pour protester contre la loi Elan. Parce que la loi Elan, elle nous met à la rue, avec ou sans papier. Hein, ça, là-dessus... La démocratie est bien faite, mais elle précarise tout le monde, et en particulier évidemment les gens qui n'ont pas de papier, parce que les gens se servent de cette loi Elan pour le mettre dehors, mais ceux qui ont aussi des papiers et qui sont juste pauvres, hein, Laurent, on a parlé la semaine dernière, et cette loi elle est pourrie. Donc c'est peut-être aussi ce genre d'action qui malgré tout sont utiles aussi, parce que ces braves gens de la société civile, pour certains là en France, que La République En Marche a mis dans ses listes, ils se le prennent un peu plein de gueule, excusez-moi d'être un peu... brutal dans mon propos, mais c'est peut-être un moyen aussi d'agir qui est peut-être plus efficace que chez les vieux de la vieille, des militants ailleurs qui ont bien l'habitude finalement de nous avoir en face.
C'est pas faux.
Et je crois que tu avais envie de parler, en fait, le deuxième sujet pour cette introduction qui sera donc un premier deuxième sujet.
Ouais, c'est...
Allons-y.
C'était juste parce que j'ai l'habitude quand même de vous écouter, même si je viens aussi co-animer de temps en temps, mais et je sais que vous parlez régulièrement quand même de la peine de mort au travers du monde, travers le monde. Et ben là, c'était juste pour rappeler que le 18 septembre 1981, donc c'était l'anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'abolition de la peine de mort en France. Et je voulais juste quand même rappeler, parce qu'il est toujours bon de se le rappeler, c'est que 106 États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, 7 l'ont aboli pour les crimes de droit commun, 29 respectent un moratoire sur les exécutions, soit au total 142 États. En revanche, la peine de mort est toujours appliquée dans 57 États. Voilà. Et en 2016, c'était 23 États qui ont procédé à des exécutions. J'avais pas des chiffres plus récents. Mais voilà. Juste un petit rappel.
je voulais juste faire un petit agenda tout de suite pour dire que à la fin, quand vous avez fini de nous écouter, parce que c'est super sympa, vous pouvez aller à l'atelier des canulars. Il y a une caisse de solidarité parce que vous savez, il y a des gens qui avaient fait une action pâtissière contre le président de la métropole et aujourd'hui il y avait donc le procès au TGI, tout ça. Et donc il y a eu la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'atelier des canulars, ce qui peut permettre aussi de discuter tout ça. Et ils avaient été faire cette action à base de farine parce qu'il y a la surveillance des lieux vides, c'est-à-dire qu'on y met de la vidéoprotection, il paraît. Donc on vidéoprotège maintenant les bâtiments pour éviter que des gens puissent les occuper et donc se loger avec un peu de dignité. Je voulais juste finir là-dessus. Voilà. Alors, on va parler encore de dignité et on va parler d'un drame. On a l'habitude aussi de parler dans ce Canu Info du travail qui tue. C'est vraiment un drame. Ça s'est passé ce lundi dans une bibliothèque dans le 20e arrondissement à Paris. C'est le corps d'une femme qui a été retrouvée, une travailleuse chargée du ménage et de l'entretien. Elle était payée, embauchée par la ville de Lyon. Elle faisait pas partie des nouveaux contingents qui sont aujourd'hui embauchés par des entreprises privées pour travailler dans des bibliothèques de la ville de Paris, puisque maintenant on en est là quand même, c'est la sous-traitance, bien évidemment. Alors en fait, c'est un peu glauque, hein, donc je préfère le dire tout de suite. Elle a été retrouvée en culotte dans son vestiaire, donc c'est-à-dire qu'elle est en train de se changer. Il faut savoir que le lundi, la bibliothèque est fermée, donc elle était toute seule, et elle était donc en train de certainement de s'habiller. Donc ce qui veut dire qu'elle est morte seule dans un lieu vide. Elle a été découverte par une étudiante. Elle n'a pas du tout été réanimée. Hein. Et là, on a quand même des questions qui sont soulevées par la CGT de la ville de Paris sur le fait qu'aujourd'hui, les gens travaillent seuls et que ce sont des drames qui pourraient être évités parce qu'on travaille ensemble. Alors, il y a bien d'autres raisons de travailler ensemble. Déjà parce que c'est plus sympa, on peut rigoler. Et puis, parce que vous travaillez moins dans une urgence, parce que vous faites plus de choses dans le même temps. Et puis si même on vous enlevait un peu des heures pour travailler, ben en même temps vous êtes deux pour faire ce travail-là. Donc si quelqu'un a mal au dos ou mal au pied un jour et ne s'est pas mis en arrêt maladie, hein, il n'y a pas très longtemps, Fabien de la Causerie a parlé des arrêts maladie dans votre émission. Il y a des tas de travailleurs et travailleuses qui aujourd'hui ne se mettent pas en arrêt maladie parce que ben, ça coûte, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne veut pas s'embrouiller avec son patron. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles ben, être deux, c'est aussi une solidarité au travail. Et puis, comme le rappelle la CGT à Paris, et ben ça évite des drames. Ça veut dire que ben, si vous faites un malaise, on ne sait pas hein, ce qui est arrivé à cette personne. Quelle que soit la raison, ben, y a quelqu'un qui peut peut-être appeler les urgences pour vous. Ce qui est incroyable, c'est que la CGT, au mois de juin, j'ai retrouvé le communiqué, c'était sur le site, il était paru le 20 juin dernier. La CGT, la ville de Paris, s'inquiétait du fait qu'il y ait à la fois des entreprises privées, parce que souvent, les entreprises privées, ben, y a du mauvais matériel, et les conditions de travail sont encore plus mauvaises. Parce que, et oui, parce que des fois, vous êtes tellement isolé qu'en plus de ça, il n'y a même pas de syndicat pour vous aider.
Ah, mais oui.
Voilà. Au moins, la ville de Paris, il y a des syndicats. On en pense que l'on veut des syndicats de la ville de Paris, mais au moins, ils existent.
C'est ça.
Voilà. Donc, en tout cas, à ce moment-là. Et puis, alors, en plus, dans ce communiqué, la CGT rappelait juste que ce qui était bien, c'est qu'en plus, il y en avait qui avaient été embauchés donc, pour du service par des services extérieurs et ils n'avaient pas de contrat de travail. Mais ça, la ville de Paris...
Ah bah c'est pas eux.
Bon, et donc là, il y a eu un nouveau communiqué que vous pouvez retrouver sur CGT. Là, c'est sur le site de la bibliothèque hein, de la CGT Paris, qui demande évidemment la tenue d'un comité hygiène et sécurité très rapidement pour que ben, y ait des règles de sécurité qui soient respectées, qui soient mises en place quand elles n'existent pas. Et puis rappeler que ben, ça sera encore pire avec un prestataire privé. Et puis que c'est inacceptable que les gens travaillent seuls. Point final. Bon, c'est un texte un peu technique, qui n'est pas forcément très... Mais on sent important, mais on sent quand même qu'il y a de la peine de savoir que quelqu'un est décédé seul, sur son lieu de travail, dans le cadre de son travail. Moi, j'appelle ça un drame. Voilà, et le travail tue. Donc voilà, on espère que... En tout cas, ça fera peut-être réagir.
Oui. On peut rappeler que c'est des centaines de morts rien qu'en France, hein, tous les ans.
Ouais. Enfin, voilà, j'avais envie de vous raconter ça. C'est pas très drôle, hein, je vous l'accorde. voilà. On va parler d'une grève à RFI, sinon.
Oui.
Rapidement.
Oui, rapidement. Alors, mais oui, en fait, lundi 17, donc il y a 3 jours très exactement, il n'y avait pas de journaux sur Radio France Internationale parce que l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, il y a eu un appel à la grève. Alors, le pourquoi du comment, en fait, c'est la direction de RFI qui a décidé de ne plus payer ses cotisations sociales pour les correspondants à l'étranger, privant les intéressés de protection sociale. Alors, évidemment, ça fait un bon électrochoc, ce qui peut peut-être expliquer le taux de grévistes. En fait, on était à 32% de grévistes en moyenne, avec des services qui étaient entièrement à l'arrêt, comme le service international, justement, qui lui était totalement à l'arrêt, avec 80, et la grève avait été votée à 90% par une assemblée générale. Et donc, le pourquoi du comment, en fait, c'est que cette décision, en fait, elle ferait suite. Alors, je peux bien comprendre qu'elle fasse suite à la décision, enfin, à une mise en demeure de la Sécu, qui oblige en fait les non-résidents à dépendre de la sécurité sociale du pays où ils bossent et à cotiser ou à cotiser à la caisse des Français de l'étranger. Le truc, c'est qu'on pourrait se dire, la direction de RFI aurait pu dire, on prend en charge les frais complets. Et... Non, ce serait bien trop simple, parce qu'on est toujours dans le combat au travail, n'est-ce pas? Ils ont dit, on va vous donner une petite aide, peut-être, qui serait de l'ordre, ils proposent entre 500 et 2000 euros par journaliste et par an, en sachant que le prix d'une telle assurance, c'est entre 5000 et 10 000 euros annuel. Donc autant dire, avec des salaires qui sont vraiment pas très hauts pour ces personnes-là, c'est juste pas possible. Et donc c'était un mouvement de grève lundi, mais c'est sûrement à suivre. Là, j'ai regardé aujourd'hui, j'ai pas vraiment une nouvelle. Mais en tout cas, enfin, je trouve que c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Et en même temps, il y avait aussi un mouvement d'épigistes qui aussi réclamait un petit peu plus de justice, en tout cas d'égalité de traitement entre les différentes personnes. Voilà pour la grève à RFI, en espérant avoir été clair.
Alors je vais continuer avec un truc pas drôle, je suis désolée pour ce soir, mais vraiment je tiens à m'excuser, mais voilà. On va partir du côté de l'Allemagne avec la forêt de Hambach, j'espère que je prononce bien. Je vais vous parler du décès de Stéphane. Stéphane, c'était un vidéaste, journaliste, blogueur, militant, engagé, on va dire, qui suivait ce qui se passait au niveau de la ZAD de Hambach, l'idée étant de s'opposer au projet de la compagnie électrique RWE, je le dis d'une façon francophone. L'idée étant pour cette compagnie électrique d'étendre une mine de charbon géante à ciel ouvert. Alors, parce qu'on veut pas une nucléaire, mais on va cochonner tout le reste.
Bah oui.
Il y a une logique quand même à tout ça. Vous avez peut-être entendu que le gouvernement régional de Rhénanie-du-Nord avait envoyé la police pour évacuer les lieux. Alors, il y avait à peu près 150 habitants réguliers, on va dire ça comme ça, une cinquantaine de cabanes dans les arbres, l'idée étant de protéger évidemment la forêt. Donc, on s'accroche aux arbres. Et Stéphane a fait une chute de 14-15 mètres, selon les comptes rendus. Il est donc décédé. C'est un mort de plus sur un lieu militant. Évidemment, ça nous fait penser à Rémy à Sivens. Là aussi, on a aussi les réactions de la police régionale qui a expliqué que ils y sont pour rien. Il n'y avait pas d'opération en cours là où il était. Donc en fait, il est tombé tout seul.
C'est ça.
C'est pas parce qu'il s'est senti en danger et qu'il a dû peut-être bouger un peu rapidement. Et puis, ils étaient sur site, quand même, avec... attends, je vais te dire... 3500 policiers.
Pour 150 militants, militantes.
Des canons à eau. Il paraît qu'il y avait des hélicoptères, au pluriel, des chevaux, parce qu'on a... tout ça pour détruire donc les cabanes, virer, expulser les militants et les militantes de cette ZAD. Donc oui, c'est impressionnant. Donc Stéphane n'est pas mort juste comme ça. Alors moi j'ai lu des trucs comme quoi, soi-disant, il serait tombé parce qu'il aurait voulu remonter une carte mémoire d'appareil photo avec un système de câbles et de poulies, qu'il serait mal pris. Okay. Globalement, ce serait sa faute.
Ok.
Ça se trouve, l'arbre était mouillé, et donc c'est la faute de ces godasses. C'est assez insultant pour, je trouve, Stéphane, puis pour sa famille, pour ses proches, pour ceux et celles avec qui il a pu militer par le passé, mais ceux et celles qui suivaient aussi au quotidien, parce qu'il a quand même raconté des histoires, Stéphane. Il a rapporté aussi la vie et les mouvements de lutte de ces zadistes. Donc là, on est encore une fois dans l'insulte aux activistes. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça. L'évacuation a été suspendue, heureusement. Évidemment, maintenant, les zadistes demandent l'arrêt définitif de l'évacuation. Moi, j'y crois moyen, mais c'est parce que je suis très, très pessimiste sur ce genre de trucs. Du côté de RWE, y a eu un petit tweet. Parce que tu vois, tu tweets et puis tout va bien. Un petit tweet dans lequel RWE regrette cet accident tragique.
Ça leur coûte pas cher, quoi.
Ah bah non, Twitter ça coûte pas cher. En fait, je crois qu'il faut arrêter les réseaux commerciaux dans ces cas-là, parce que mieux vaut ne rien dire. À la rigueur, ils ont un site internet, RWE, qui va très bien pour ce genre de communiqué de presse. Aller tweeter derrière, là encore, je trouve que c'est malvenu, insultant. Enfin, je sais pas, il y a un moment, il faut peut-être utiliser les outils médias et commerciaux à notre disposition d'une manière propre. En tout cas, c'était un lieu qui était quand même, cette forêt de Hambach, un lieu symbolique contre les mines de charbon à ciel ouvert. Parce que c'est quand même un gros problème. Et puis c'est aussi un lieu dans lequel on va détruire une forêt, tout ça pour l'énergie. Encore une fois, on ne remet pas en question les dépenses énergétiques, parce que oui, évidemment, il faut bien de l'électricité, c'est bien comme ça Radio Canucon fonctionne, mais il n'y a rien qui est remis en question derrière. Et puis c'est un beau lieu, cette forêt, et que tout va être rasé, voilà, faut le dire quand même. Ça m'a fait penser du coup à Rémi Fraisse, malheureusement, et ça m'a fait penser du coup à Sivens, du coup à Sivens Bis, dont on parle moins, en tout cas dans cette émission on n'en parle pas beaucoup, on n'en a même jamais parlé je crois. C'est du côté du Lot-et-Garonne, c'est une retenue d'eau de Caussade qui est donc destinée, là encore, à alimenter les agriculteurs, enfin pas les agriculteurs, mais en tout cas les champs des agriculteurs, qui évidemment se fichent pas mal de ça, ce qu'on peut détruire à côté. Là, si j'en reparle, c'est parce que lundi, la Fédération Nature Environnement et la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, qu'on appelle souvent le CEPENSO, ont déposé un recours afin d'obtenir l'annulation d'un arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux qui permettrait donc de tout détruire. Il faut savoir qu'il y a des vieux chênes sur le truc. Moi, c'est surtout ça qui... Voilà, le vieux chêne, si tu veux. C'est quand même des arbres qui sont massifs, qui sont parfois très, très vieux. Et on va tout défricher, tout arracher, pour faire une belle retenue pour des agriculteurs en production intensive, je demande. Je pose la question. Tout ça, en fait, se peut parce qu'il y a des dispositions législatives qui sont prises par la préfète, Madame Vellerte. Je ne suis pas sûre de la prononciation de son nom, la dame. Hein. En tout cas, elle s'appelle Patricia. Si vous la cherchez, comme ça, vous la trouverez. Avec un W devant. Un I, deux L, un A, un E, un R et un T. Si vous voulez lui écrire et que vous dire que vous n'êtes pas content, c'est parce qu'il y a des... Voilà, encore une fois, on a un État qui prend des décisions de bouleverser la nature. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait un peu bébête. Oh là là, la pauvre petite nature, on va la détruire. Ouais, enfin bon, c'est quand même tout ça pour faire une retenue d'eau pour des agriculteurs qui ont peut-être des soucis pour leurs exploitations, mais qui ne cherchent pas du tout à comprendre derrière tout ce qu'on va détruire. Et puis encore une fois, si c'est pour de l'agriculture intensive...
C'est tout le problème, quoi. C'est qu'encore une fois, on ne met pas en question le mode de production, on ne met rien en question, en fait, quoi. Donc, ouais.
Surtout que la Caussade, c'est un petit cours d'eau, si tu veux. Donc on va faire un côté... une grosse digue, enfin, avec un lac artificiel, voilà, c'est-à-dire qu'on casse tout. Voilà. Pour les Dombard, ça me permettait de reparler de ça. On pourrait partir en Allemagne toujours ? Non, on va y rester en fait.
Ben oui, en fait, on va y retourner.
Voilà, je vais y arriver avec le bon verbe.
On va y retourner. Allez. Effectivement, moi je voulais vous parler de Hans-Georg Massen. C'est le patron du renseignement allemand, hein, qui en fait a été débarqué de son poste avant-hier, donc mardi après-midi, par le gouvernement d'Angela Merkel. Alors, le chef de l'Office fédéral de protection de la Constitution, donc ce Hans-Georg Massen, a entre autres casseroles le fait qu'il penche un peu beaucoup à droite. voire même très 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 à droite. Donc, pour rappel quand même, hein, c'est la crise, en fait, elle avait éclaté, la crise politique entre Merkel et ce bonhomme et enfin tous ces courants politiques. La crise, donc, elle avait éclaté le 7 septembre quand ce même monsieur Massen avait pris le contre-pied d'Angela Merkel, qui affirmait donc, lui, que non, il n'y avait pas eu de chasse collective aux migrants à Chemnitz. Bon, il a rétro quand même pédalé après, donc c'est que Angela Merkel avait quand même raison sur ce point-là, en tout cas, et qu'il y avait réellement des chasses aux migrants. Donc le truc, c'est que les projecteurs à ce moment-là se sont un peu plus braqués sur ce chef des renseignements intérieurs, pour s'interroger quand même avec ses relations avec les membres de l'extrême droite. Et là, les questions de relations, Et là, en fait, c'est qu'on découvre plusieurs choses. C'est déjà cette année, il y a une ancienne dirigeante de la jeunesse de l'AFD. Vous savez, ce parti pour l'alternative en Allemagne, un truc qui est juste d'extrême droite, en fait. Franziska Schreiber a donc déclaré que Massen avait expliqué à l'ancienne dirigeante de l'AFD, Frauke Petri, la façon dont le parti pouvait éviter d'être placé sous surveillance par son agence. Il n'est pas trop sympa. Il a nié, lui évidemment, avoir donné de tels conseils. Puis, la semaine dernière, autre événement, c'est que le BFV, donc le truc dont il est le chef, là, a été contraint de démentir une information du média ARD en Allemagne. C'est une chaîne de télé, selon moi. Ils disent radio aussi, pardon. Enfin, radio-télé, bref, c'est un média comme ça. Selon laquelle ce même Hans-Georg Massen avait évoqué avec un parlementaire de l'AFD certaines parties d'un rapport de son agence avant la publication. Donc voilà, hein, il faut savoir qu'à côté de ça aussi, il y a des landers, en fait, il y a deux landers, enfin de régions, je sais plus comment. Oui, c'est ça, deux régions. Oui. Ouais. qui avaient placé, en fait, des sections de l'AFD sous surveillance, en fait. Parce que ils ont un peu quand même observé tout ce qui se passait autour de ces mouvements-là. Et en fait, leurs rapports ont été laissés intacts, en fait, au siège de la du BFV pendant environ 6 mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien des landers, enfin, il y a bien des régions qui faisaient remonter les informations. Sauf qu'en fait, quand le monsieur qui est censé s'en occuper est copain de l'extrême droite, bon, bah, ça bloque, quoi. Donc voilà, vous avez le portrait du personnage, donc viré, hein, évidemment. Sauf que, aux surprises, il a été dans la foulée désigné secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, à savoir que c'est le ministère du chrétien social bavarois Ernst Seehofer, qui est la bête noire de Angela Merkel, donc un ennemi politique, et qui est dans le même gouvernement. Donc voilà, vous voyez, on peut se rendre compte que finalement, les accoquinages entre extrême droite, policiers, ou en tout cas responsables, etc., ne sont pas propres, là encore une fois, à la France. Ça, c'est toujours intéressant aussi de regarder, mais comme je trouve que ton exemple avant sur la ZAD en Allemagne, en fait, on est dans des pays différents. Bizarrement, les modes de fonctionnement des gouvernants, des flics, sont à peu près les mêmes. Et donc là, c'est à peu près pareil. Donc on peut aussi être surpris. En tout cas, en Allemagne, ils sont aussi surpris de tous ces rapports entre ce responsable de la surveillance, on va dire, et l'extrême droite. Comme ça nous arrive des fois en France aussi d'être surpris de tels accoquinages ou de telles relations ou de si bonnes situations pour les extrêmes droites. On pourrait prendre, tiens, la ville de Lyon, par exemple, qui a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de locaux qui se sont installés avec, on va dire quoi ? Pas la participation, en tout cas la participation non active, mais c'est quand même réel, des politiciens, quoi. Et que finalement, là, encore une fois, partout, c'est à peu près les modes de fonctionnement. Voilà pour cette info allemande.
Alors, on va parler d'un décès, mais c'est plutôt en termes d'hommage. Ne paniquez pas de votre côté, parce qu'il arrive qu'à un moment, on est vieux.
Oui, faut l'espérer.
Et quand on est vieux, parfois on meurt. Voilà. Plus ou moins tard. Donc, je vais vous parler, ça te fait rire, mais parce que j'essaye de détendre l'atmosphère. C'est vraiment un hommage qui va nous amener à avoir une petite réflexion derrière, hein, si vous le voulez bien. Et je vais vous parler de Arthur Mitchell. C'est un danseur new-yorkais. Il est mort mercredi hier à l'âge de 84 ans. Ça va, il avait vécu, il aurait pu aller plus loin. J'avais envie de lui rendre hommage parce que c'est le premier danseur étoile noire des États-Unis d'Amérique, du New York City Ballet. C'est assez impressionnant, en fait. Alors, il a grandi à Harlem, donc dans un environnement pauvre et pas vraiment porté sur la danse classique. Il a intégré le New York City Ballet en 55. Il a d'abord été repéré dans une comédie musicale de Truman Capote, House of Flowers. Et alors, je vous invite à le relire, c'est en anglais, mais il avait donné en janvier dernier une interview au New York Times où il raconte pas quelqu'un qui était très médiatisé, enfin qui se médiatisait beaucoup. Voilà, c'était une star. C'était quelqu'un d'assez impressionnant sur scène, moi je trouve, mais on trouve des vidéos assez anciennes, en plus en noir et blanc, enfin, c'est très très beau. Il racontait en fait comment ça s'est passé au début. Cet homme noir qui se met à faire du ballet classique, qui monte sur scène, comment il a tenu des rôles principaux dans les années 50, hein, comment en 55-56, sur une saison, il a eu un rôle important, et comment le public devant lui a eu des réactions extrêmement raciste, parfois très 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 violente. Alors Arthur Mitchell, il était très fier, parce qu'il disait que c'était par la danse qu'il avait conquis les gens, et que le ballet avait pu commencer parfois avec des insultes, et c'était terminé par des ovations. Donc il était très fier de ce travail-là, de dire que c'était la danse finalement, qui allait au-delà de son apparence. Reste qu'il était un danseur noir dans la danse classique aux États-Unis d'Amérique sur les années 50 et 60 et que ça a été très dur. Il est devenu danseur étoile en 62. Il va danser avec le New York City Ballet jusqu'en 70. Avec les mouvements des Noirs pour la défense des droits des Noirs aux États-Unis d'Amérique, il va lui-même devenir un militant et il va faire ça avec la danse. C'est-à-dire qu'il va emmener le ballet classique dans les quartiers noirs, à Harlem par exemple, et il va monter le Dance Theater of Harlem, qui est aujourd'hui une institution absolument incroyable, que personne ne voudrait remettre en cause, parce qu'elle a amené la danse, et la danse classique en particulier, dans des quartiers où il n'y avait pas l'argent pour cette pratique, où ce n'était pas habituel, et il a permis un développement bien différent, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui font de la danse, qui ont la peau noire, qui ne font pas que de la danse classique, qui font aussi de la danse contemporaine. Mais il a amené ça, il n'a pas été tout seul à monter ça, il a fait ça avec Karel Schuch, il a créé ça donc, en 69, cette école, et puis il a commencé... sur un parking, enfin, voilà, avec des petits moyens, parce qu'en plus, il faut bien se dire que quand même, quand on était danseur étoile, on ne gagne pas non plus des sommes absolument incroyables. Et puis, c'est quelqu'un, quand on le lit, qui a une modestie dingue, parce qu'il dit que c'est Georges Balanchine, donc un danseur chorégraphe russe extrêmement célèbre, c'est lui qui l'a choisi. Et en fait, il a dû se battre pour faire accepter Arthur Mitchell, parce qu'on disait mais non, un noir, enfin, tu vas pas nous mettre un noir en collant sur une scène, enfin, je traduis des propos qui n'existent pas, mais globalement c'est comme ça que ça s'est passé, et Georges Balanchine s'est battu pour imposer Arthur Mitchell, parce que c'était un danseur incroyable, et que c'est et puis que c'était un être humain apparemment plutôt chouette, et que il s'est battu pour qu'il y ait cette intégration qui n'a pas été simple, parce que c'est un peu lui, Georges Balanchine, qui s'en a pris plein la tronche. À côté du racisme qu'a vécu Arthur Mitchell, il y a aussi un homme, danseur et chorégraphe, qui s'est imposé, qui a imposé ses choix pour que Arthur Mitchell puisse danser. Pour ceux et celles que ça intéresse, un spectacle dont on parle beaucoup, il s'appelle Créole Gisèle, qui date des années 80. C'est Gisèle, hein, qui est un classique de la danse. Et là, il a retranscrit ça dans une plantation. Donc, voilà. Alors, on peut se demander... la première danseuse noire à être promue danseuse étoile, elle s'appelle... Misty Copeland, c'est quand ? 2015.
Wow.
Alors, ça ne veut pas dire que le racisme a empêché d'autres d'arriver. Peut-être que si. Peut-être que non, mais peut-être que si. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail hein, pour que chacun, quelle que soit la couleur de sa peau, chacune, quelle que soit la couleur de sa peau, puisse faire aussi de la danse classique, c'est-à-dire des arts qui sont soi-disant réservés aux blancs. Moi, ça m'a fait penser, je peux vous raconter ma vie, j'ai fait moi-même de la danse classique. Ouais, on ne dirait pas comme ça, mais oui.
On va tout savoir.
On va tout savoir. Et quand j'étais petite, il y a quelque chose qui me choquait, c'est qu'il fallait que j'achète des collants chers. Et alors, les collants chers dans la danse classique, c'est couleur blanc. Voilà. Alors je me suis demandé aujourd'hui, dans les collants même que les femmes peuvent porter quand elles mettent des jupes par exemple, est-ce qu'on dit toujours collant chair ? Je me suis posé la question. Alors, je me suis rendu compte que sur les boîtes, il n'y a plus trop l'appellation. Et puis qu'on est passé, parce que des fois, vous avez juste le petit truc en plastique qui vous montre le contenu. Des fois, alors on a beige, machin, transparent, tout ça. Invisible, mais bon, voilà, ça, voilà. Et puis sinon, on trouve, j'ai trouvé skin.
Peau, okay. donc
peau, mais du coup, c'est toujours de la même couleur blanche. Enfin, hein, blanche. Du blanc, oui. De la blanche. Nude. Qui nu.
Oui.
Donc voilà. Et alors, il y a quand même des marques qui utilisent le nude avec tout un pantone pour toutes les couleurs de peau. Mmh. Donc il y a une évolution aussi sur ces appellations. Il y a encore du travail à faire parce que ça reste un petit peu sectoriel quand même. Mais il y a quand même des marques qui, heureusement, ont envie aussi de peut-être de faire du pognon et qui sont aussi portées par des femmes noires, il faut le dire, mmh. et qui ont permis d'avoir aujourd'hui 15 nudes différents, c'est-à-dire de rappeler que skin, chair et nude, eh ben, ça dépend de la couleur de ta peau.
Bah oui,
donc
fait.
Voilà, ça m'a fait penser à ça, en fait, cette histoire aussi de danse classique, à ces collants que je portais qui, je trouvais cette appellation épouvantable. Parce que même chez les blanches, il y a un peu plein de couleurs aussi, il faut le dire aussi, mais bon, ça, voilà, c'est peut-être aussi trop compliqué. Alors, du coup, pourquoi c'est important aussi de parler un petit peu de ces manières qu'on a de parler chez les blancs et les blanches qu'on retrouve dans la presse écrite? Je voudrais vous parler de Caroline Coupa, elle écrit pour l'AFP, on la retrouve souvent donc, dans le Figaro, puisque le Figaro.fr remplit ses pages de trucs de ce genre. Et donc, il y a cette... Alors, elle nous parle en fait d'une exposition qui se situe en Espagne, à Valence, où Anthony Miró, je vous pose le truc, qui est un artiste de 74 ans, et s'est inspiré des vases grecs antiques. Vous voyez un petit peu ces personnages de profil parfois un peu musclés, avec les bras qui partent un peu dans un sens, voilà, ils vont lancer le javelot. Bon, là, on a des couples qui sont des fellations. Bon, c'est en grandeur nature, et il a posé ça sur, dans la rue.
D'accord.
Donc, après, là, Caroline Coupa, ça lui va pas bien plus, cette affaire. Et elle nous fait cette petite phrase au milieu. Les parents qui souhaitaient effectuer une simple balade familiale vont sans doute devoir répondre à quelques questions de leur chère tête blonde. Voilà, le cher tête blonde, si vous voulez, ça m'énerve. Non, tous les gamins ne sont pas blonds. Ils ne sont pas tous de la peau blanche. Voilà.
Comme si c'était difficile de dire de leurs enfants, par exemple.
Certains ont des jolies petites têtes crépues. J'aimerais bien que dans un article, ce soit écrit des quelques questions de leur chère tête crépue. Ça, ce serait chouette. Ben, c'est pas le cas. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a quand même une manière encore de parler qui est dominante dans la manière dont on a à parler de nos corps, de nos peaux, et que, effectivement, moi, j'encourage à ce que les hommes et les femmes noires ben, continuent à vanter... les cheveux crépus, la peau noire et tout ça, et à se battre pour qu'on arrête de parler de col en chair. Voilà.
Alors, je ne peux pas passer à côté, mais ou pas que les cheveux crépus, en tout cas que cela relève du choix individuel et pas effectivement
ah, mais...
de... Non, 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 mais c'est juste que je repense à une personne que je
oui,
connais.
Oui, je sais.
Mais effectivement, c'est...
C'est que... C'est juste, je dis les cheveux crépus parce que je pense aussi aux gens qui sont, par exemple, d'origine maghrébine ou qui sont maghrébins, et à qui on a quand même eu des insultes. Donc voilà, s'il y a plein de gens qui ont des cheveux sur lesquels il y a eu des insultes que je ne citerai pas et que voilà, j'ai même pas envie de me souvenir parce que, voilà, c'était pas les petits cheveux qu'il fallait. Enfin bon. Mais effectivement, chacun fait comme il veut. T'as envie de te tirer tes cheveux crépus tout droit. Moi, alors moi, ça me va.
C'est ça. Tant que tu te fais plaisir.
Si t'as envie
à
de
toi.
Te raser ta tête.
c'est ça.
Tu fais ce que tu veux. Nous, on est open dans cette émission. On va parler. Il nous reste un bon quart d'heure. Alors, moi, j'ai noté l'Assemblée nationale aide les profiteurs.
Ouais, alors je vais devoir détailler. Hein.
Ouais. C'est ce que je notais sur mon petit papier, écoute.
Parce que là, ça, c'est tout et rien. D'accord. Alors, en fait...
Je vous rappelle que chez nous, dans ces émissions, les profiteurs, c'est les entreprises, le capitalisme...
Ceux qui possèdent beaucoup...
Qui sont du pognon sur notre dos.
Moi aussi. C'est ça.
Aussi. Voilà. Bon.
Eh bien, allez, on y va. Eh bien, il faut savoir que dans la nuit de mardi à mercredi 19, donc c'était pareil avant-hier, l'Assemblée nationale en France, hein, ça se passe bien, a voté l'extension de la convention judiciaire d'intérêt public à la fraude fiscale, ce qui permettra aux entreprises fraudeuses d'éviter la justice sans reconnaissance de culpabilité. Alors... Ce truc-là, la convention judiciaire d'intérêt public, il faut savoir qu'elle a été introduite dans le droit pénal français à l'occasion de l'adoption en décembre 2016 de la loi Sapin 2. relative entre autres à la transparence et à la lutte contre la corruption.
Je crois qu'on va rire.
C'est ça, t'as presque envie de rire. Donc, elle permettait jusqu'alors donc, aux personnes morales d'éviter les poursuites judiciaires pour corruption, trafic d'influence, blanchiment, blanchiment aggravé et blanchiment de fraude fiscale contre le paiement d'une amende ou la réparation des dommages subis par les victimes. Alors, il y a un précédent quand même, parce que, enfin, je vais quand même essayer de vous donner le plus d'éléments, parce que, en fait, déjà, c'est que désormais, les poursuites pour fraude fiscale pourront donc également être évitées par une amende, hein, ce qui n'était pas vraiment le cas. Et cette amende, elle sera négociée avec le parquet national financier. Donc, ce qui me permet de vous faire un rappel, c'est qu'en fait, au mois de novembre 2017, HSBC, Private Bank, alors mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, avait ainsi évité de se rendre devant les tribunaux en acceptant de payer une petite amende de 300 millions d'euros aux autorités françaises. Alors évidemment, hein, la procureure à l'époque de cette affaire-là, elle a dit c'est quand même génial, on n'aura jamais pu espérer autant. Ouais. Bon, ben on aurait peut-être pu, on sait pas vu qu'on n'y est pas allé en fait. donc ça a été étendu. Et en même temps, ils ont fait sauter le verrou de Bercy. Parce qu'en fait, je rebondis sur cette suite en fait de modification de texte, c'est parce qu'en fait, il y a le président de l'association anticorruption Anticor qui a dit... je vais le citer en partie, en tout cas rapidement, quelle logique y a-t-il à assouplir le verrou de Bercy pour rendre plus efficace la lutte contre la fraude Mais quelle logique y a-t-il à assouplir le verrou de Bercy pour rendre plus efficace la lutte contre la fraude si est créée dans le même temps une procédure qui permet aux gros, grands fraudeurs de transiger avec la justice et de négocier leurs sanctions? Et ben en fait, c'est marrant, mais je trouve ça super fort, c'est qu'en fait, La République En Marche, ben, l'a fait sauter. Mais ça va pas tout changer. Parce que ce verrou, donc il a sauté, en même temps, donc aussi dans la nuit de mardi à mercredi. Et alors, c'était quoi ce verrou? Ce qui est à différencier hein, de l'extension dont je vous parle avant. J'espère que je suis à peu près clair. Donc ce verrou, c'était la possibilité pour le ministère du Budget, et lui seul, hein, de pouvoir décider, après avoir été informé de dossier, de porter plainte ou de lancer des poursuites judiciaires. Donc c'était un système hein, qui était complètement opaque, hein, c'est le seul endroit où il y avait ça, c'était en France en fait. Et donc évidemment, hein, ça, on pouvait imaginer qu'il y avait pas mal de soupçons quand même sur tout ce lien-là entre politicard et justice et business, et enfin on ne sait plus trop qui se situe où et ni où sont les limites de chaque secteur, dirons-nous. Donc dorénavant, hein, c'est le parquet, donc la justice, qui se verra automatiquement transmettre les affaires ayant donné lieu à des pénalités administratives. Ok ? Donc là, ce n'est plus dans les mains du ministre du budget, des finances, qui va décider ou non, en fait. Donc ça, à la rigueur, je trouve que c'est plutôt pas mal. La suite est assez intéressante aussi, c'est que la seule limite de ce dispositif, cette automaticité, je vais y arriver, et ben en fait, elle ne concerne que les gros fraudeurs, c'est-à-dire ceux qui ont évité l'impôt à hauteur d'au moins 100 000 euros.
Ouais, il faut quand même.
Donc tous ceux qui sont en dessous, je pense qu'il y a pas mal de copains ou autres qui peuvent être, enfin pas mes copains, hein, mais des copains des gens qui sont au pouvoir, de cette petite bourgeoisie et tout ça, bah, qui peuvent être peut-être un peu sauver leur miche et leur billet grâce à la République En Marche. Donc on ne va pas les remercier, mais ce qui veut toujours dire qu'il y a plein de pognon pour plein de gens, sauf qu'il n'est pas réparti de manière, assez juste.
Et en fait, moi, ça me fait penser toi, à une autre affaire, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans d'enquête, 3 ans, c'est long quand même, la Commission européenne a estimé que le traitement fiscal accordé par le Luxembourg à McDonald's était légal. Je vous rappelle que McDonald's prend les petits gains de ses franchisés, hein, ça s'appelle des redevances intragroupes, les met au Luxembourg. Alors c'est McDonald's Europe, c'est-à-dire que c'est l'Europe, la Russie, l'Ukraine, hein, les met donc au Luxembourg et ne paye pas d'impôts. Alors c'est évidemment le Luxembourg qui permet cette petite manipulation, mais parce qu'il y a d'un côté les États-Unis et le Luxembourg qui ne s'entendent pas. Parce que vous savez, c'est un peu le problème hein, qui est des organisations comme ATTAC font remarquer assez fréquemment que tant que les États ne s'entendent pas au niveau fiscal, les multinationales pourront s'amuser et faire joujou. Alors, on parle quand même de milliards hein, de placés au Luxembourg, de côté. Donc là, c'est McDonald's qui donc, profite de ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, les rulings, accordés donc, par le Grand-Duché du Luxembourg. Et là, en fait, c'est ce que... Alors, ce qui est marrant, c'est que ça leur a pas trop plu. Il y a, par exemple, l'eurodéputé vert allemand Sven Jegold, à mon avis, ça se dit pas comme ça, mais on va l'appeler Sven, qui a dit que c'était Happy Meal pour McDonald's. Allez hop là, là c'est open bar hein, aussi. Alors c'est en fait McDonald's arrive à éviter une double imposition, c'est-à-dire que McDonald's arrive à être imposé nulle part, ni aux États-Unis d'Amérique, ni en Europe. Et ça c'est la magie en fait. Il y a des gens qui sont très doués dans le monde pour permettre à des multinationales d'échapper à l'impôt, puisque les États-Unis se rendent compte qu'elle n'est pas imposable en Europe, puisque du côté du Luxembourg, on dispense le Luxembourg de donner des preuves de fiscalité. Donc il n'y a rien en fait. Luxembourg, tu vas chez eux, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien, tu as les mains dans les popoches. Du coup, il n'y a pas de preuve que McDo payait. Elle demande rien. Il n'y a rien au Luxembourg. On ne demande rien, on ne te donne rien. Et du coup, on ne demande pas à McDonald's de prouver que s'il y a une imposition ou pas de l'autre côté de l'Atlantique. Donc du coup, les pays se renvoient la baballe en disant Non, c'est bon, pas chez nous. Mmh. Ah bon, pas chez nous non plus. Hein. Alors, du côté du Luxembourg, c'est pas chez nous, parce que viens placer tes sous, c'est bien. Du côté des États-Unis, comme en France, c'est plutôt... pardon là, mais t'as pas envie de payer un truc. Ouais. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu des affaires quand même. On a eu Amazon, Apple, qui ont été sanctionnés. Amazon, 280 millions d'euros. Comme un claque hein, qui doit de d'impôts. Apple, on parle de 14 milliards 300 millions avec là c'était par l'Irlande, hein, mais ça revient un peu au même. Alors que Amazon c'était avec le Luxembourg. Là, McDo s'en sert. C'est-à-dire qu'on a quand même une multinationale qui s'en sort, alors que les autres ne s'en sont pas sortis quand même. Hein. Apple avait fait scandale, mais enfin bon, évidemment c'était un peu lourd à payer. Mais enfin, avec tout le passif en même temps, bon voilà, c'était pas très grave. Mais finalement, McDo s'en sort bien.
Peut-être que ce qui est arrivé à leurs copains Apple et autres, ils se sont dit, tiens, il faut qu'on soit encore plus malin pour qu'on se fasse encore moins attraper.
Alors, parce qu'en fait, McDo a un truc en disant, ah mais nous, on paye l'impôt sur les sociétés, 3 milliards en Europe, entre 2013 et 2017. Bon, déjà, je me dis que ça ne doit pas être tant que ça pour une telle multinationale, mais après, je suis un peu à l'écart, hein, je n'ai pas les papiers sous les yeux. Mais en fait, McDo arrive quand même à échapper à une grosse partie de son impôt. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que... Il y a quand même... Alors, c'est légal, donc.
Mais oui, en fait. Mais après, c'est tout le truc de cette Europe qui est finalement juste une addition de nations, en fait. Il n'y a pas de fédéralisme, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucune règle réellement commune, aucune truc qui est mise à plat. Et finalement, on pourrait presque se demander, sans aller au complot, mais quel est l'intérêt, en fait, pour les politiciens, à l'échelle européenne, de finalement vraiment... rendre ça clean pour tout le monde. Parce que ça ferait partir
des entreprises. Je crois qu'ils n'arrivent pas à s'entendre déjà, il y a un problème. Et puis effectivement, pour Luxembourg, c'est quand même aussi des rentrées d'argent, enfin, l'air de rien.
Ça fait
quelque chose quand c'est sur un compte, des choses, des sommes comme ça, des petits bénéfices. Mais effectivement, on parle des paradis fiscaux, puis finalement, ils ne sont pas forcément à l'autre bout du monde. Il faut toujours se souvenir qu'on a Luxembourg juste à côté. Hein.
C'est pas loin, c'est... Oui. Et la City aussi est une bonne place, on a encore plein d'autres...
Ouais, mais alors ça, il paraît que la City, bientôt, ça sera avec le Brexit.
Oui, c'est vrai,
avec
le Brexit, oui. Ils cherchent un autre lieu où ils pourraient placer leur lobby.
Mais oui, c'est quand même un souci aujourd'hui, effectivement, c'est que les multinationales rechignent quand même à payer ce dont elles doivent payer. Et qu'on sait que petites ou grosses entreprises, de toute façon, il y a toujours des entreprises qui rechignent à payer, que ce soit pour les payer leur SAF, c'est trop cher, l'impôt sur les sociétés, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc effectivement, les multinationales ont plus de moyens pour contourner la loi, mais jouer avec les lois. Parce qu'elles ont les moyens de payer des gens extrêmement compétents.
Ils ont plein de cabinets d'experts. qu'on n'a pas forcément.
L'Afrique du Sud un truc bien, non, on peut terminer.
Ouais, une petite info joyeuse après toutes ces informations qui n'étaient pas forcément joyeuses, mais qui sont la réalité. Et malheureusement, la réalité n'est pas toujours joyeuse. Et bien, cette info, elle vient d'Afrique du Sud, où la justice sud-africaine, a décriminalisé la consommation de marijuana à titre personnel entre adultes. C'était donc mardi que ça s'est passé, donc avant-hier. Et la loi interdisait au départ la consommation de marijuana, qui interdisait ça, elle a été jugée anticonstitutionnelle et par conséquent nulle, donc par le juge responsable de ce truc-là. Et la cour basée à Johannesburg, elle a, au-delà d'autoriser la consommation de cannabis entre adultes à domicile, elle a aussi autorisé la culture à domicile de la marijuana et a ordonné au Parlement de rédiger dans les 2 ans une nouvelle loi conforme à sa décision. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut appeler ça comme ça. Même si certains en Afrique du Sud ont dit on aurait pu aller un petit peu plus loin et juste quand même aller jusqu'au fait que on puisse décriminaliser aussi l'usage du cannabis dans la rue, par exemple, sans que ça soit un crime, tout ça. Donc quand même une avancée qui n'est pas rien. Et en même temps, dans l'article que j'avais, justement, il rappelait que c'est quand même pas mal de pays en ce moment qui sont en train de modifier les règlements, les lois, etc., le rapport, on va dire, de la justice avec le cannabis. Aussi parce qu'il faut le rappeler, il y a un organisme international qui avait dit il faudrait peut-être revoir le rapport qu'on a établi avec le cannabis, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on est dans la répression qui coûte un pognon monstre et qui finalement ne sert pas à grand chose. La cause, en tout cas pour les cannabinophiles, je ne sais pas si ça se dit, mais elle avance, bravo à elles et eux, et puis peut-être bientôt en France et ailleurs en Europe.
Écoute, je vais juste terminer par un truc dont je t'ai pas parlé, mais je pense que tu m'en voudras pas au sujet. Par contre, je pense qu'on va se fâcher avec une partie de l'extrême gauche politisée. Je vais parler de ce qui arrive à Marie Cabrette, la DRH de Charlie Hebdo. Elle a ouvert un compte Twitter. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Fallait pas, fille. Je plaisante. Elle l'a fait à la base pour une bonne cause, c'est qu'elle l'a fait avec l'accord de la famille de Charb, et elle continue en mémoire de Charb de publier des dessins qu'elle avait faits. Je rappelle qu'il est mort pendant un attentat en plein hiver, au mois de janvier, par des intégristes religieux. Elle utilisait un dessin de Charb pour sa petite photo. Et là, nous avons donc le réseau commercial Twitter qui a décidé qu'a priori, elle enfreignait des règles. Et ce dessin a été bloqué. C'est lequel de dessin ? C'est un dessin qui représente un imam, mais un curé, un prêtre, chrétien, qui se tiennent l'air absolument dégoûté, le kiki. Mutuellement, donc le kiki de l'autre, avec le pantalon descendu sur les chevilles, un dessin très classique de Charb avec les visages jaunes, avec un titre « Les deux extrêmes se touchent ».
Oui, parce que c'était effectivement des intégristes qui étaient dessinés, et donc c'était joli.
Moi, le dessin me fait rire, alors que je l'ai déjà dit dans cette émission, moi le pipi caca en humour, j'aime pas trop, il y a des trucs de Charlie Hebdo, je n'aime pas leur dessin des fois, et puis des fois j'aime bien, il faut le dire aussi. En tout cas, ce dessin me fait rire. Après, vous savez que dans cette émission, nous sommes des vilains athées rationalistes en plus, parce qu'on aime les sciences. Un dessin comme ça, ça nous fait marrer, et en plus de ça, nous on déteste la censure. Ça c'est un acte de censure assez courant sur Twitter. Là, en plus, elle a bien été chercher Marie Cabrette en quoi ça répondait pas à la norme de tweet. Elle n'est pas sûre d'avoir bien trouvé. Alors du coup, elle l'a enlevé, mais en demandant à des gens de bien vouloir retweeter. Il paraît que depuis, c'est une avalanche de tweets. Donc l'idée, c'est là de dire à la multinationale, vas-y, efface maintenant.
C'est ça. Bloque tout le monde.
Allons-y. Parce que moi, allons-y. Twitter, après tout, c'est un réseau commercial. Twitter a le droit de faire ce qu'il veut. sur moi, quand on dit à Facebook c'est mal et tout, mais enfin c'est leur raison, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent t'enlever ton truc, c'est pas du domaine du droit public, hein, Facebook, Twitter. Donc moi je dis allons-y, et puis comme ça Twitter s'amusera à virer 150 fois, 1000 fois, 2000 fois ce dessin de Charb dans le cadre d'une censure tout à fait assumée, puisqu'elle a posé la question. Pour l'instant on veut pas lui répondre du côté de Twitter. Tant Twitter français existe, hein, donc ils savent parler le français. Elle veut, je pense, elle acceptera même de parler dans une autre langue pour avoir des réponses, Marie Cabrette. Voilà, alors moi les gens qui me disent ouais mais alors l'humour, moi je veux bien, mais il faut que ce soit drôle. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche, la censure. Puis là quand même, c'est scandaleux, les sexes, enfin c'est du dessin, de la caricature, on va se calmer. Les religions, tout ça, la défense, oui, bah il y a des religieux, des croyants qui aujourd'hui ont de l'humour. Et ça les fait marrer. Oui. Donc arrêtez de penser que votre parole à vous, elle est première, parce que c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des gens de ces deux religions qui ça fait marrer.
Ben oui, en fait.
Et voilà. Donc je voulais juste terminer pour ça, pour dire que bah oui, Twitter, il y a de la censure, mais en même temps, quittez Twitter, quoi.
Ok.
Voilà. Okay. Moi, je m'en fous, je suis pas sur les réseaux commerciaux. Donc, à chaque fois, je peux faire des actes de morale à quatre balles.
Non, mais c'est dingue, parce que la morale, finalement, elle est très portée par ces réseaux. En même temps, je pense que leurs origines américaines, mais alors peut-être que c'est moi qui me trompe, mais je pense un peu ce côté quand même assez puritain. Attention,
avec le sexe, ils ont un problème.
Sur le cul, sur l'idée même de sexe ou autre. Enfin, bon, ça prend des proportions de dingue. Et en même temps, c'est quand même un pays où tu peux dire à peu près les pires atrocités. Parce que c'est la liberté d'expression. Donc c'est très compliqué.
C'est le puritanisme.
C'est ça. Et ça, faut se le rappeler.
Bon, ben voilà, on va se laisser guider vers la sortie. Hop, c'est par là. Pas de papillon a priori derrière nous ce soir. Par contre, donc moi, je vous retrouverai la semaine prochaine avec Laurent. Normalement, si nous avons tout suivi, nos amis de La Petite Cuillère devraient reprendre leur émission à partir de 20h, donc jusqu'à 21h, le jeudi 27 septembre. J'espère qu'ils seront là pour prendre notre suite la semaine prochaine. On vous rappelle qu'il y a un autre Canu Info avec une autre équipe demain, vendredi, et qu'on a des blogs que vous pourrez... tout réécouter 12 fois, faire écouter à vos amis, partager, qu'il y a toujours la causerie, évidemment, le dimanche.
C'est vrai, hein, aussi.
Que ça se réécoute aussi sur les blogs, que des fois, ça me rassure, vous avez aussi des problèmes techniques, pas que nous.
Bah oui.
Parce que c'est malheureux, voilà, je vous le dis, quand on a des soucis techniques, c'est difficile de faire des émissions, parce qu'on n'est pas des pros, et rien nous perturbe.
Bah oui, c'est perturbant de ne pas s'entendre, ou de s'entendre avec des
questions. Ou s'entendre trop. Voilà. Oui, oui. En tout cas, on vous souhaite une bien bonne soirée. Courage à ceux et celles qui sont en lutte. Bon appétit si vous êtes à table. Et je fais un coucou à Raoul. Ciao, ciao.
Ciao. Alors le flic est avec lui.